sur la première.
La première,
le mug,
de 9h à 10h.
Un temps pour penser, un temps pour parler, 27 petits cours de philo pour mieux penser avant de mieux communiquer. C'est ce que propose dans un livre à la fois essai philosophique et guide pratique Emmanuel Tourpe, docteur en philosophie et directeur de la programmation et directeur adjoint des programmes d'Arte. Bonjour Emmanuel Tourpe.
Bonjour Élodie, bonjour Xavier et bonjour aux éditeurs de La Première, cette chaîne que j'aime tant.
Et oui, vous avez un passé aussi à la RTBF, hein, Emmanuel Tourpe, c'était il y a quelques années. Dans ce livre, il est question de Facebook, de télé, bien sûr de Twitter, de Netflix, mais aussi de mensonges, de manipulations, de morts, de dieux, d'écoute, d'amour, d'humour, de nourriture, de fées et de sexe. Et votre but finalement, c'est peut-être aussi de rappeler que la philosophie est partout, mais qu'on l'a peut-être un peu oubliée.
Il est question de vie, il est question de choses de tous les jours et effectivement la philosophie, ce n'est pas une sorte de matière abstraite faite pour des gens qui se lisent entre eux, mais c'est d'abord l'art de penser sa propre vie, l'art de ne pas se laisser mener par les choses, mais d'être capable à un moment de les mettre sous le contrôle d'une forme de sagesse, d'une forme de capacité à se mettre au balcon et à un moment de décider ce qui est notre vie et non pas simplement de devoir la subir.
Cela dit, vous avez une vision un peu dichotomique, pour ne pas dire manichéenne, du monde. D'un côté, les gens qui pensent, qui philosophent, qui se parlent entre eux. Et de l'autre côté, les gens qui communiquent bien, qui ont un lien avec le monde, mais qui, disons, passent moins de temps à penser peut-être. Et pourtant, vous êtes un bon exemple. Vous êtes philosophe et en même temps, vous êtes directeur des programmes d'une chaîne. Alors bon, ok, c'est Arte, mais avant, on l'a dit, c'était la RTBF. Donc ça veut dire qu'il y a quand même déjà des liens entre ces deux mondes avec une série de réflexions.
Alors, je lutte précisément contre les polarisations, contre les oppositions, contre ces grandes divisions qui aujourd'hui sont de plus en plus de mise et qui sont même en réalité valorisées sur les réseaux sociaux. Et il me semble que l'époque à venir, si on ne veut pas que ce soit une époque dans laquelle il y a une forme d'explosion de minorités qui toutes considèrent qu'elles ont la vérité, il me semble que l'époque à venir doit justement réapprendre à construire des ponts, réapprendre à ne pas penser simplement par opposition, pas à penser uniquement par forme de radicalisation investie de violence, mais au contraire, à retrouver ce que j'appelle l'art des polarités. Cet art que le vieux Goethe, vous savez, celui de Faust, le penseur allemand Goethe, appelait le regard polaire. Cette capacité à ne pas voir les choses seulement dans leur opposition, dans leur contradiction, mais au contraire dans la manière dont elles se nourrissent l'une l'autre. À remettre sur le monde un regard fait de bienveillance, j'ose le mot, d'amour, dans laquelle sauver la proposition d'autrui peut devenir une manière de chercher soi-même aussi la vérité. Et donc, je répondrai plutôt par la négative à votre question, Élodie. Loin de me satisfaire des oppositions, loin d'avoir un regard manichéen sur le monde, c'est l'inverse. Je voudrais y construire des ponts et je puise pour ça dans le ciment le plus ancien et probablement le plus solide qui existe. Celui de la sagesse philosophique.
Voilà, mais c'était bien ce que je voulais dire. Mais c'est votre objectif. Mais vous posez un constat de départ qui est une sorte de monde coupé en deux. Et là, vous venez d'en parler. C'est vrai que le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'ils offrent une prime à l'opposition, à la polarisation. Plus vous êtes contre, plus vous êtes vu, plus vous êtes liké. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas des choses, des injustices auxquelles il faut absolument s'opposer fermement?
Alors, mon ami, la philosophe Pascal Seyss, qui est très connue en Belgique...
Et qui préface votre livre.
Et qui préface mon livre, et qui est notamment célèbre pour ses tics de l'actu, a une très belle formule. Elle dit « Nous sommes passés de la guerre des classes à la guerre des clashs ». C'est tout à fait ce qui est en train de se passer dans cette guerre de tous contre tous sur les réseaux sociaux. Alors, évidemment, on peut y voir un certain nombre de bénéfices, c'est-à-dire la capacité qu'a chacun, tout citoyen, de pouvoir à un moment défendre des points de vue qui sinon ne passeraient pas la barre des médias de masse, c'est-à-dire la possibilité d'être des lanceurs d'alerte, par exemple. La possibilité aussi de ne pas laisser faire des gouvernements en fonction de ce qu'ils ont envie d'imposer comme point de vue. C'est tout à fait exact. Par contre, je pense que nous avons franchi une ligne rouge. Et que derrière ce que je viens de dire, qui est tout à fait légitime, quelque chose d'autre est en train de se produire. Les réseaux sociaux deviennent de plus en plus larvés d'une guerre intestine dans laquelle ce n'est plus simplement la révélation de vérité, ce n'est plus seulement le fait de lancer des alertes qui devient prioritaire, c'est l'inverse. C'est le fait de diviser, c'est le fait d'opposer, c'est le fait de créer cette guerre de tous contre tous dont le vieux philosophe Hobbes nous disait qu'elle serait un jour le cauchemar de notre société. Et je crois que nous devons recréer un réseau social, recréer des réseaux sociaux qui soient investis, et je crois qu'il ne faut pas hésiter à y mettre ce mot-là, parce qu'il n'a rien de sentimentaliste, il n'a rien de, entre guillemets, chrétien seulement, ce mot d'amour, ce mot de bienveillance, dans une société qui sinon, je crois, est au bord de l'explosion. C'est le moment précis de remettre du lien, c'est le moment précis de redire au bord de la rupture que nous devons construire des ponts. Au bord de l'abîme, il faut savoir lancer des ponts de singe, il faut savoir mettre des échelles.
Ouais. Et vous nous expliquez aussi, Manuel Tourpe, qu'il ne faudrait pas trop surévaluer le pouvoir des réseaux sociaux dans un chapitre intitulé « Manipuler sans convaincre, les limites de la tromperie ». Vous expliquez que non, Cambridge Analytica n'a pas influencé en profondeur le vote des Américains. Non, les Anglais n'ont pas voté le Brexit parce qu'on leur a lavé le cerveau à travers les réseaux sociaux. Vous dites que c'est faux d'un point de vue de la théorie de la communication et des recherches menées sur le sujet. Pourquoi c'est faux ?
Alors c'est tout à fait faux, on le sait en fait depuis la fin des années 50, à la fin de 30 ans de recherche sur l'efficacité et les effets de la propagande, qui date à peu près des années 1920 dans les médias de masse, on a découvert, c'est un très grand théoricien qui s'appelait Clapper, qui l'a résumé dans les années 50, on a découvert ceci, quand vous tentez d'influencer une opinion sur des médias, en réalité vous arrivez à faire quelque chose, il y a un effet que vous pouvez produire, qui est de renforcer une opinion préexistante. Donc vous arrivez à convaincre les gens de ce qu'ils sont déjà convaincus par avance. Par contre, vous ne pouvez changer en profondeur une opinion qui a une capacité critique et qui éventuellement est opposée. Autrement dit, les effets des médias sur le long terme ne sont pas du tout prouvés. Et la réalité des choses, c'est que ces effets ne sont limités dans le temps. Ils ne sont pas linéaires. Ça veut dire qu'en réalité, ils passent aussi par des médiations, c'est-à-dire la discussion, par exemple, au café. Et que la réalité des choses, c'est que la propagande ne fonctionne que pour des gens qui l'acceptent par avance. Elle n'a pas d'efficacité sur des esprits critiques, elle n'a pas d'efficacité sur toute personne qui simplement pense et réfléchit.
D'accord, mais le monde de la communication des médias a quand même pas mal changé. Depuis ses premières recherches aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on sait qu'on a une possibilité d'atteindre avec une très grande précision un groupe cible, la jeune mère célibataire au chômage, je prends cet exemple-là parce que c'était celui qui était repris lors de la première campagne de Donald Trump il y a 4 ans. On sait que les algorithmes des réseaux sociaux façonne une espèce de bulle digitale dans laquelle on trouve des messages qui vont tous de manière unilatérale dans la même direction. Donc on peut les masses médias classiques n'ont probablement plus la même, n'ont pas cette influence aussi forte, mais les réseaux sociaux, on baigne dans un environnement idéologique qui est peut-être toujours le même, et là l'influence, on imagine beaucoup plus importante.
Alors vous avez raison, on est passé des masses médias à ce qu'on appelle les classes médias, c'est-à-dire des médias beaucoup plus ciblés. Ce que vous venez de décrire, ce n'est pas un ensemble d'effets, ce n'est pas un ensemble de résultats, c'est un ensemble d'envies, c'est un ensemble d'intentions des marketeurs, et c'est un ensemble d'envies que ces gens qui sont derrière ces médias ont de toucher ces groupes cibles. Alors, évidemment, on en est capable, de manière ciblée, d'adresser des messages particuliers, donc de susciter davantage l'attention de ces publics. Mais rien n'a changé sur ce qui est l'essence fondamentale de l'être humain. C'est-à-dire sa capacité critique. Vous savez, dans les années 1960, aussi un peu plus tard, entour d'auteurs comme Hogarth et d'autres, on a découvert que même dans les milieux les plus populaires, ceux qui, par exemple, lisaient le Sun en Angleterre ou le Daily Mirror, il n'y avait pas du tout, comme on le pensait, une sorte de perméabilité au message qui était envoyé, une sorte de bestialité dans la manière de percevoir les messages. C'était l'inverse. On a découvert en allant dans les familles, en allant dans les milieux les plus populaires, que vis-à-vis de tout message quel qu'il soit, il y a une capacité critique qui n'est absolument pas perçue, qui n'est absolument pas envisagée par les communicants. En réalité, les communicants tentent de faire passer des messages, mais ça c'est la grande loi, c'est la plus grande loi découverte au XXe siècle en communication. Faire passer un message, ce n'est que la première partie du geste de communication. La perception, la réception est l'autre grand moment de la communication. Et la plupart du temps, les communicants oublient cette capacité du récepteur de dire oui, de dire non, de dire peut-être, et surtout de renvoyer la question à celui qui adresse le message.
Ça me permet de faire la transition vers un autre chapitre. Pourquoi nous regardons tant de bêtises à la télévision et pourquoi nous regardons tant de séries sur Netflix? Et vous attardez sur un article scientifique signé Herta Herzog qui analysait les feuilletons radiophoniques dans les années 40. C'était les plus belles la vie de l'époque, hein, les sitcoms de l'époque, on va résumer ça comme ça. Et vous nous expliquez que ça a été un point de basculement dans l'histoire des médias où on s'est enfin demandé ce qui intéressait le public.
Alors exactement, dans les années 40, il y avait en radio des feuilletons quotidiens, des feuilletons à l'eau de rose, dont se moquaient tous les chercheurs de l'époque et tous les intellectuels de l'époque. On disait que ces feuilletons à l'eau de rose, qui étaient essentiellement pour les desperate housewives, c'est-à-dire ces femmes au foyer qui n'avaient rien d'autre à faire, c'était un objet de mépris absolu. Cette chercheuse, Herta Herzog, a découvert en réalité la fonction extrêmement profonde de ces romans à l'eau de rose, de ces feuilletons à l'eau de rose en radio, parce qu'ils permettaient à ces femmes au foyer, en réalité, de créer un espace à la fois de rêve, à la fois d'espoir, et en même temps, par la force des récits qui y étaient développés, de capacité à réfléchir à leur propre vie, une capacité de miroir. Mais ça, c'était le point de départ de tout ce qu'on a découvert par la suite, et dont en réalité nous héritons à travers nos capacités à regarder en binge viewing, par exemple sur Netflix, des séries en quantité. C'est le point suivant. Le véritable miroir de nos vies, ce qui nous permet de penser à qui nous sommes, ce qui nous permet de comprendre où nous allons, ce qui nous permet de saisir notre identité, en réalité, c'est à travers les récits, à travers les histoires fortes, à travers les séries, si l'on veut, les feuilletons en radio, si l'on préfère, mais dans tous les cas de figure, à chaque fois qu'il y a récit, il y a une capacité de comprendre qui nous sommes. Nous aimons les romans policiers ou les films policiers parce qu'à travers eux, c'est la mort qui nous est exposée de la manière la plus douce, de la manière... la plus admissible possible, mais en même temps, il y a bien un travail philosophique de fond qui se fait, car nous la mettons devant nos yeux, alors que la plupart du temps, la mort est cachée sous le tapis. Mais de manière générale, et j'arrête ici, de manière générale, ce qui est l'immense découverte, là encore, de la communication au XXe siècle, à côté du rôle du récepteur, c'est le rôle du narrateur, c'est le rôle du récit, la force de ces récits, qui est le seul vrai miroir pour nous comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous consommons tellement Netflix, c'est pourquoi aussi nous regardons parfois des bêtises à la télé. Il y a derrière ces actes qui paraissent anodins, en réalité un acte philosophique de fond.
Voilà, et c'est important de dire que vous parlez de toutes ces habitudes quotidiennes que nous avons, parce que finalement, votre livre est très concret. Bon, là, vous avez cité Goethe et Hobbes à 9h15, mais c'est un livre qui est coloré, avec une mise en page qui est assez sympa, des mises en exergue, qui aère le texte, des petites phrases. On peut le consommer, votre livre, le lire de façon un peu légère en apparence, même si bien sûr, il y a la réflexion derrière. Il est finalement, et même si on a compris que vous n'étiez pas le premier fan des réseaux sociaux, il est très instagrammable, votre livre, Emmanuel Tour, pardon.
Alors d'abord, je suis très réseaux sociaux. Au contraire, je crois à la force du numérique et je crois même qu'il y a dans le rêve du numérique que nous avons petit à petit perdu, c'est passé à peu près vers